Maintenant, je vais présenter le conférencier de ce soir, Simon Bouisset. Simon Bouisset est biomécanicien. Il est professeur émérite de l'Université Paris Sud Orsay. Il est l'ancien directeur du laboratoire de physiologie du mouvement de l'Université de Paris Orsay. Il est spécialiste de la physiologie du mouvement qu'il aborde en biomécanicien. Pour ce qui est des publications, Simon Bouisset a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales ou internationales et participé à de nombreux colloques. Il a publié également plusieurs ouvrages, dont « Muscles, postures et mouvements » avec Bernard Maton, publié chez Hermann en 1996, et « Biomécanique et physiologie du mouvement », publié en 2002 chez Masson. Il est le fondateur de la Société de biomécanique et membre fondateur de la CEMIA, qui est la Société d'études sur marée et l'image animée. Simon Bouisset, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi pourra suivre un débat d'une vingtaine de minutes avec le public. Pardon. Je vous remercie.
Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de dire au professeur Michaud mes remerciements pour m'avoir donné l'occasion de vous entraîner dans le jardin biomécanique que je cultive avec émerveillement, et un émerveillement qui ne s'est pas démenti avec le temps. J'espère que je pourrai vous faire partager une partie de mon enthousiasme. Et si vous le voulez bien, je partirai de quelques remarques introductives. Je voudrais d'abord constater que mouvoir son corps, en totalité ou en partie, est une activité humaine familière dont la pratique sportive offre de saisissants exemples. Pourtant, les connaissances scientifiques grâce auxquelles il s'avère possible de mieux fonder les pratiques gestuelles, de favoriser la performance et d'en éviter les risques, ne sont encore que peu familières à la plupart. Or, la biomécanique offre de telles possibilités. On se propose donc d'exposer ici les principes qui fondent la biomécanique et d'en discuter les conséquences. Pour ce faire, on doit partir des lois de la mécanique ou lois de Newton qui s'appliquent à l'homme comme à tous les êtres animés ou inanimés. En d'autres termes, l'exécution de tout geste, qu'il soit d'ordre sportif ou autre, dépend de lois impératives qui s'imposent au déplacement tant des parties que de la totalité du corps. Le rôle des muscles est de gérer ces différentes contraintes de façon à ce que le geste soit efficace et la tâche réalisée. C'est donc un rapide parcours sur la contribution de la biomécanique à la compréhension du geste qu'est consacré cet exposé. Je partirai d'abord sur l'approche biomécanique du geste qui comportera deux parties. Avant de parler de la biomécanique, il faut tout de même parler du contexte dans lequel le geste sportif se trouve. Le geste sportif, c'est un mouvement qui répond à l'intention de réaliser une tâche bien déterminée. En d'autres termes, le mouvement volontaire en l'occurrence, constitue le moyen de réaliser une tâche motrice. C'est un moyen, ce n'est pas la fin. La fin en elle-même, c'est la tâche. Le transparent suivant. A pour objet de montrer comment je vous propose de concevoir les choses. Il y a une tâche que l'on désire réaliser, qui est la tâche prescrite. Et en fin de compte, il y a une tâche que l'on réalise, qui est la tâche réelle. Entre les deux, il y a le système nerveux central, qui va émettre des ordres, le système musculaire qui va transformer de l'énergie chimique potentielle en énergie mécanique et qui va déplacer les segments corporels. Or, si on reprend un petit peu ces différents éléments, on va constater que la tâche se définit par des paramètres qui lui sont propres. Quels sont ces paramètres ? Le processus opératoire, le trajet que l'on doit effectuer, le temps que l'on va prendre, la précision, et puis l'incertitude sur le déclenchement du geste que l'on veut produire. Mais aussi, cette tâche, dont les paramètres viennent d'être rappelés rapidement, s'inscrit dans un certain contexte. Ce contexte, un contexte environnemental. Et donc, il va y avoir des paramètres supplémentaires. Alors, il y en a deux, à mon sens, enfin deux les plus importants, ce qui nous concerne. La structuration de l'espace, qui va se caractériser par la disposition et les caractéristiques des éléments matériels de la tâche, voire des partenaires et des adversaires. Et puis, il y a l'ambiance physique, qui comprend les forces extérieures agissant sur le corps, pesanteur, réaction du sol, résistance à l'avancement, etc., plus d'autres paramètres, comme un paramètre sonore, lumineux, etc. Alors, pour être en mesure de répondre à ce qui correspond à une contrainte, c'est-à-dire la tâche que l'on se propose, eh bien, le sportif, l'homme en général, doit mobiliser ses ressources, qui sont tant d'ordre physiologique que psychologique. Il en résulte des adaptations fonctionnelles et comportementales. Par exemple, l'activité musculaire résulte d'une commande motrice qui requiert une programmation où la mémoire est sollicitée. Elle nécessite aussi des adaptations circulatoires et respiratoires, et tous ces phénomènes ensemble sous-tendent le comportement sensorimoteur. Évidemment, les ressources potentiellement mobilisables sont limitées. C'est la capacité opératoire qui est représentée ici et qui va interférer sur la chaîne, sur le processus qui permet la réalisation de la tâche. Évidemment, le niveau des potentiels disponibles dépend de multiples facteurs. Pour l'augmenter, comme l'entraînement musculaire, ou plus généralement l'apprentissage, ou le diminuer, comme la fatigue, les déficiences diverses, ou encore le vieillissement. Et in fine, il y a la tâche réelle qui va être réalisée, si possible, et qui se caractérise par la performance. La performance est représentée par des critères qui permettent d'apprécier l'adéquation de la tâche réalisée à la tâche souhaitée. Dans le domaine sportif, la performance est appréciée selon des critères quantitatifs comme le temps chronométré, le classement à l'issue de l'épreuve, la précision d'un tir, etc., mais aussi par des caractères qualitatifs comme la continuité d'enchaînement ou l'effet artistique d'un geste. En définitive, ces critères de performance, ces paramètres de la tâche, sont ceux tels qui ont été prescrits, les paramètres déterminants qui ont été prescrits au moment de l'élaboration de la commande. En définitive, la difficulté à réaliser une tâche donnée dépend de sa nature, du niveau d'exigence relatif à chacun de ces paramètres, des modalités de leur combinaison et de la capacité opératoire du sujet. Le fait que la tâche réalisée réponde aux impératifs prescrits, c'est-à-dire que la performance réelle soit conforme avec la tâche prescrite, constitue la preuve de l'efficacité du mouvement. En d'autres termes, et comme je le disais tout de suite, l'exécution du mouvement et la réalisation de la tâche constituent deux aspects intimement liés du même phénomène, mais le geste n'est que le moyen de réaliser la tâche. Dans cette perspective où nous nous situons, la démarche mécanique peut rendre des services. En effet, dès lors qu'il s'agit d'évaluer la performance et d'en associer le niveau jugé insuffisant à certaines imperfections relevées au cours du mouvement, la méthode biomécanique peut rendre des services. En effet, elle permet d'obtenir des données précises et quantifiées sur le mouvement exécuté par l'athlète, éventuellement sur celui de l'engin, et d'aider l'entraîneur dans sa démarche. La biomécanique donne un cadre conceptuel qui permet d'intégrer les données que l'on recueille dans une cohérence scientifique, où elles vont s'organiser les unes par rapport aux autres. Cette cohérence procède des lois de la mécanique que l'on est fondé à appliquer au corps humain comme à tout autre système. La biomécanique distingue cinématique de dynamique. La cinématique s'intéresse au mouvement tel que le caractérise déplacement et durée, et donc vitesse et accélération. Son objet se limite à l'effet des forces qui produisent le mouvement, mais n'inclut pas ses forces elles-mêmes. L'étude des forces constitue par définition le domaine de la dynamique. Grâce à ces méthodes associées, souvent, il est possible non seulement de caractériser le mouvement de façon quantitative, mais encore de calculer les actions qui agissent globalement au niveau des articulations. Néanmoins, ce n'est seulement qu'en détectant l'activité électrique des muscles qui est témoin de leur excitation que l'on peut connaître les muscles qui sont activés, l'intensité de leur excitation et les modalités de leur mise en jeu réciproque. C'est l'électromyographie, connue sous le nom de EMG dans le jargon des laboratoires. L'utilisation conjointe de toutes ces méthodes permet d'analyser le rôle des effecteurs musculaires dans la séquence motrice et, plus généralement, de procéder à des modélisations variées. On voit ici la cinématique et la dynamique qui sont la sortie du système ostéo-articulaire, l'EMG qui est la sortie du système musculaire, alors que la performance est évidemment la caractéristique de la tâche. Mon deuxième point concerne la cinématique du geste sportif. Et tout d'abord, je parlerai des méthodes de détermination des grandeurs cinématiques. Il y a des méthodes de mesure et puis il y a la nécessité de repères. Ces méthodes de mesure, elles sont soit directes, et on va utiliser des potentiomètres, des goniomètres, des accéléromètres, soit indirectes, et c'est le plus courant. Ces méthodes indirectes consistent dans l'enregistrement sur un support quelconque, papier photographique, film, bande magnétique, disquette, disque dur, d'images du mouvement. Celles-ci peuvent être détectées par diverses méthodes d'imagerie, optique, optoélectronique, par exemple, caméra vidéo à mire passive ou réfléchissante, ou encore à mire active, émettrice de lumière dans l'infrarouge, etc. Alors, je ne peux pas résister au plaisir de faire un petit détour par l'histoire de la biomécanique, parce que ces techniques cinématiques, comme les techniques dynamiques d'ailleurs, sont dues au travail remarquable de deux Français qui étaient Étienne-Jules Marais, mort il y a près de 100 ans maintenant, et Georges Demeny, qui a été son collaborateur avant de devenir son ennemi. Il y a aussi Muybridge, évidemment, qui a beaucoup œuvré dans le domaine. Alors, cette planche ici est tirée d'images, de livres de Marais. La première, ici, celle-là, représente un saut à la perche sur une plaque fixe. C'est un travail de 1890. Et on a ici une échelle de longueur que l'on voit bien. Et la fréquence des prises est du centième de seconde. Pour faire ces chronophotographies, Marais a eu un problème qui est celui de la superposition des images sur une même plaque. Alors, il a essayé plusieurs choses. Ici, c'est l'homme en blanc dans le laboratoire, la station physiologique qui était à Roland-Garros et qui n'y est plus puisque Roland-Garros s'est agrandi à ses dépens. Et puis, il a pris un homme en noir et blanc. Et puis après, en 1883, il a pris un homme, qui est celui-là, qui porte un collant noir avec des bandes blanches ou des languettes de métal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'homme en question, c'est Demeny, son collaborateur et collègue, avec lequel il a mis la technique au point. Et à partir de cet homme-là, celui-là ou un autre, il peut obtenir ce qu'on appelle les trajectographies ou photographies partielles. Et l'on voit très bien ici la course. Ce sont encore, ça c'est un enregistrement de 1885. on fait mieux maintenant parce qu'on fait en deux ou trois dimensions, enfin en trois dimensions, mais en ce qui concerne la fréquence des images, ben, la plupart ne font pas tellement mieux. Et alors, à partir de ces images, on fait ce qu'on appelle un diagramme en bâton, n'est-ce pas, avec des méthodes plus modernes désormais, et on peut ainsi avoir telle ou telle partie du corps, quantifier ensuite les trajectoires, et si on a un repère de référence convenable, alors on va pouvoir calculer des vitesses et des accélérations par dérivation et rentrer dans des modèles. Alors, pour qu'il en soit ainsi, pour que l'on puisse faire tous ces calculs, eh bien, il convient d'avoir un référentiel, c'est-à-dire de pouvoir renvoyer à des axes, je pense que ce n'est pas au point, de pouvoir renvoyer à des axes, référer à des axes, le mouvement que l'on étudie. Chacun sait que, depuis Galilée, que ce n'est pas la même chose de repérer son mouvement quand on est dans un train et qu'on prend comme repère le train, ou bien quand on se repère par rapport à la gare d'où on est parti. Et donc, il faut des repères, et ces repères, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais je vais quand même dire qu'il faut des repères fixes liés à la Terre, et c'est par rapport à cela qu'on a le mouvement absolu, qu'on peut aussi prendre, par exemple, le centre de gravité par lequel on fait passer des axes qui vont être parallèles aux axes ici liés à la Terre, n'est-ce pas, et référer par rapport au centre de gravité les mouvements d'autres parties du corps, où on peut encore prendre un point ici sur le corps et tracer des axes qui, à ce moment-là, ne seront plus parallèles à ces axes de référence. Donc, ceci est absolument nécessaire si l'on souhaite pouvoir quantifier le mouvement. Le deuxième point que je souhaite aborder dans ce parcours cinématique, c'est la modélisation du corps. L'étude biomécanique des actes moteurs amène de façon plus ou moins explicite à modéliser le corps humain, c'est-à-dire à le représenter sous une forme qui est plus schématique. Et comme le corps humain est constitué de segments qui sont mobiles les uns par rapport aux autres, on l'assimile souvent à un système articulé de solides rigides, parce que ça, les mécaniciens savent faire avec, et plus simplement encore, à un système de tiges articulées rigides, donc indéformables, que l'on appelle des chaînons. À chaque chaînon peuvent être affectés un certain nombre de constantes biomécaniques. Ces constantes sont nécessaires à la mise en équation du mouvement du chaînon. Ces constantes sont la longueur, la masse, le poids, évidemment, ou le poids, la position du centre de gravité et le moment d'inertie. Notion un peu plus compliquée sur laquelle je reviendrai dans un instant. À partir de ces chaînons, on forme une chaîne articulée. La chaîne articulée est un système mécanique constitué de plusieurs articulations successives et des segments corporels qui les relient entre elles. Le nombre de paramètres indépendants qui permettent de définir le mouvement de la chaîne articulée, c'est-à-dire le nombre de degrés de liberté du système, est fonction du nombre de chaînons considérés et du nombre de degrés de liberté articulaire mobilisés au niveau de chaque articulation. Il y a une notion qui n'est pas inutile, qui est celle de géométrie cinématique. La position des segments les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire la configuration du corps, change au cours du mouvement. Par exemple, lors d'un plongeon, la position du corps dans l'espace change, son orientation est modifiée du fait de sa rotation, les angles articulaires évoluent en fonction de la séquence désirée. Donc, on peut s'intéresser à la cinématique du corps, que ce soit quand il bouge, évidemment, ou quand il ne bouge pas. Ici, il est question des rapports entre la configuration du corps, le centre de gravité et le moment d'inertie. Le centre de gravité du corps, je pense que tout le monde est au courant, est le point d'équilibre des masses corporelles. On peut en connaître la position pour chacun des segments corporels, comme je le disais tout de suite, et on peut aussi en calculer la position pour l'ensemble du corps. C'est le centre de gravité du corps, mais qui n'est pas un point fixe. Sa position va changer en fonction de la configuration corporelle. Si vous admettez que ces points ici correspondent au centre de gravité du corps, on voit bien que la position de centre de gravité du corps va dépendre de la posture qui est prise par le sujet. Alors, comment le détermine-t-on ? Eh bien, disons que quand le corps est symétrique, le centre de gravité par où passe le poids est situé à égale distance entre les deux, entre les deux masses corporelles correspondant aux deux parties du corps. En revanche, lorsque une partie, du fait de la position, est plus lourde, plus pondéreuse que l'autre, eh bien, le centre de gravité global s'en rapproche. C'est une question de moment, je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque, par exemple, on fait un plongeon, ici, ce qui est le cas, eh bien, le centre de gravité va aussi varier selon suivre une parabole, n'est-ce pas ? On les voit ici modestement représentés. Mais il y a autre chose qui varie, c'est le moment d'inertie du corps. Le moment d'inertie du corps, c'est une notion qui n'est pas trop familière. Et je vais commencer par donner le résultat. Le moment d'inertie du corps est plus grand ici, quand le sujet est étendu, que lorsque le sujet est regroupé. Pourquoi ? Eh bien, parce que le moment d'inertie du corps est fait à partir des moments d'inertie des différents segments corporels qui passent, en gros, disons, par rapport au centre de gravité, et est également fonction de la distance de ces segments corporels, des centres de gravité, au centre par rapport auquel, à l'axe par rapport auquel on veut exprimer le moment d'inertie. Or, ici, cette distance, c'est le carré de la distance qui rentre en ligne de compte, et cette distance, comme on voit, est beaucoup plus grande ici, quand le sujet est étendu, que lorsqu'il est regroupé. Donc, en définitive, on a ici une façon de faire varier le moment d'inertie du corps, et on verra un peu plus loin à quel point cela peut être important dès lors qu'on rentre dans des principes un peu plus compliqués. Alors, je voudrais vous présenter des analyses cinématiques de certains mouvements sportifs. Je vais en prendre trois. L'un, pour montrer un petit peu certaines choses, c'est la course. Donc, on va s'intéresser au mouvement ici. L'objet, c'est de s'intéresser au mouvement du membre inférieur. Et ce que je veux montrer, c'est la façon dont on procède. On a ici les silhouettes photographiques, disons, prises d'après des photos, qui permettent de savoir que le corps, ici, est en appui, cette jambe, ici, droite, est en appui entre le temps de contact avec le sol et le temps à partir duquel le pied va laisser le sol et après il va osciller. Et ici, on a une courbe canonique qui représente l'évolution temporelle de l'angle articulaire au niveau de la hanche, au niveau du genou et au niveau de la cheville. Si maintenant on regarde les choses un peu plus dans le détail, on voit que pour trois vitesses différentes, l'allure générale de ces tracés va rester globalement la même, mais que c'est surtout au niveau de la hanche et au niveau du genou que les amplitudes articulaires vont augmenter, et elles vont augmenter aussi bien en flexion, ce qui correspond au F, qu'en extension, ce qui correspond au E, étant entendu que je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différentes sous-phases qui sont représentées ici dans une perspective de physiologiste. Alors, on va ainsi savoir que l'allure des courbes se conserve lorsque la vitesse de course augmente, que l'accroissement de la vitesse résulte d'augmentation de l'amplitude et que lorsque la vitesse augmente, la durée de la phase d'appui diminue. C'est ce qui est représenté ici par ces traits, c'est la durée de la phase d'appui. Donc, on peut avoir très facilement un certain nombre de données. Et à partir de là, on va dégager une notion, celle de processus locomoteur cyclique pour la marche, pour la course. On va également voir que les déplacements angulaires de la hanche, du genou et de la cheville ont pour conséquence de porter l'articulation de la hanche coxo-fémorale vers l'avant, d'où résulte une progression du corps dans le sens du déplacement. Dans la course de haies, il s'avère intéressant de suivre l'évolution de l'angle des genoux pendant la phase aérienne pour savoir comment le coureur va aborder la haie ou au contraire va se réceptionner. Par ailleurs, on a montré qu'une bonne performance est la conséquence d'une vitesse verticale faible au décollage et une vitesse horizontale maximum dans la phase aérienne. Donc, il y a là tout de suite, et je le montre tout de suite, des facilités pour étudier des gestes chez des sportifs de différents niveaux, si on le souhaite. Le deuxième exemple, c'est le lancer du javelot. Le lancer du javelot est un mouvement très intéressant qui s'apparente à un tir balistique et les conditions initiales du vol du javelot sont déterminantes pour la performance. On a ici représenté certains des paramètres qui sont habituellement pris, les plus simples, à savoir la hauteur à laquelle on va lancer au moment de l'éjection, l'angle ici du javelot avec l'horizontale, mais aussi l'angle à vitesse initiale. Comme vous voyez, on peut également s'intéresser à la variation par rapport à la direction souhaitée du javelot. Alors, à partir de mesures de cet ordre, on peut regarder ce qui va être la conséquence, enfin, ou la cause plus exactement, va être la cause d'un bon lancer. Et ici, on a mis les vitesses linéaires de la hanche, de l'épaule et du coude, du poignet et du javelot. Ce sont des travaux qui ont été faits à Marseille dans le groupe d'Alain Duret. Et ce que l'on voit, et qui est extrêmement intéressant, c'est que le pic de vitesse survient de plus en plus tardivement au fur et à mesure que l'on va de la périphérie, enfin, ou du sol, si vous voulez, pour dire les choses autrement, vers le javelot. Et on voit comme ça qu'il y a une séquence préférentielle qui vise à conférer au javelot la vitesse maximum qui va résulter de ces vitesses particulières qui sont celles des différents segments corporels. Le tracé, l'exemple suivant, est un exemple de saison, puisqu'il y a le tournoi de Wimbledon et qu'il s'agit de la comparaison du service de deux champions de tennis. L'un ce sont des gens qui ne font plus du tennis, qui en font pour leur plaisir peut-être maintenant, c'était Ken Rosewall ici, et ça c'est Rod Laver. L'analyse a été faite par Plaganov dès 1971, à partir de photos dans un premier temps, il a ensuite numérisé, mis, comme vous voyez, les chaînes articulées. Il a constaté que là où il voulait vraiment faire son étude, c'est-à-dire au moment où la raquette frappe la balle, il y avait peu de mouvement des membres inférieurs, ici, et donc il a pris un nombre de segments raisonnable, sans en prendre trop, parce que plus il y a de segments, plus il y a d'équations à résoudre, et évidemment, plus c'est compliqué à faire et surtout ensuite à interpréter. Donc, il a regardé celui des deux qui avait qui frappait la balle le plus vite et qui avait la balle ensuite qui allait le plus vite. C'était celui-ci, c'était Lever. Il a ensuite analysé le geste et à partir de tracés de vitesse et d'accélération. Et il a vu deux patrons cinématiques différents. Les deux tennismen décélèrent la jambe en premier. Mais ensuite, c'est dans l'ordre. La cuisse, le tronc, le bras et l'avant-bras avant l'impact chez Lever, ici. En revanche, chez Roswal, c'était les cuisses, les hanches, qui allaient jouer un rôle mineur. Et donc, il se servait surtout de la partie supérieure du tronc et des membres supérieurs, comme on le voit là. Et d'ailleurs, ceci fait que l'ensemble a suggéré que le service de Lever était proche de la perfection et qu'il gagnerait à être diffusé, si je puis dire. Ceci étant, et ça c'est un problème général dans le domaine du sport, il va de soi que faire un modèle d'un joueur de tennis très performant ou de n'importe quel expert revient à supposer qu'il est l'archétype dans le sport considéré et qu'à ce titre, sa séquence gestuelle représente l'absolu, ce qui ne peut être accepté du fait des différences individuelles et qui doit être, à mon avis, la cause de pas mal d'erreurs pour certains entraîneurs. Je voudrais maintenant parler de la dynamique du geste sportif. Comme on l'a dit, la dynamique s'intéresse aux forces. Et quand on parle de dynamique, eh bien, on doit en venir aux lois et principes de la dynamique. On ne peut pas éviter de rappeler les équations de la dynamique qui sont les théorèmes de la quantité de mouvement et le théorème du moment cinétique. Qu'est-ce que c'est que la quantité de mouvement ? La quantité de mouvement, c'est une quantité qui est ici, n'est-ce pas ? Et prenons d'abord cette équation. C'est m gamma égale f égale m gamma. Tout le monde connaît. Mais ici, on explique que m, c'est la masse du corps, gamma, c'est l'accélération du centre de gravité, et que les forces en question, c'est la somme des forces extérieures au corps. Et on verra d'ici peu ce que cela veut dire. En tout cas, on a déjà un exemple ici. Le sujet est soumis à son poids et à la réaction du sol. Les deux forces s'annulent. S'il est immobile, il n'y a pas d'accélération du centre de gravité. Le poids est appliqué au centre de gravité et les réactions du sol sont appliquées à leur barycentre, à leur point d'appui, qu'on appelle le centre des pressions. Voilà. Alors, on remarque que le m gamma en question, c'est en définitive la dérivée de cette expression ici que l'on va retrouver un peu plus tard. Alors, la deuxième équation, celle-là, c'était l'équation, le théorème de la quantité de mouvement. On a maintenant le théorème du moment cinétique. On a toujours une certaine retenue quand on n'est pas familier avec ces équations, quand on constate les symboles qui sont dessus. Mais en définitive, si on se dit que ici, il y a l'équivalent pour les rotations de ce qu'il y avait ici pour les translations, c'est-à-dire l'équivalent d'une masse, c'est-à-dire un moment d'inertie, l'équivalent d'une accélération linéaire, c'est-à-dire une accélération pour les circulaires, pour les rotations, et qu'au lieu d'avoir la résultante des forces extérieures, on a la résultante du moment des forces extérieures. Donc, en définitive, ces deux expressions sont équivalentes, enfin, sont pas équivalentes, mais sont conçues, sont exprimées de la même façon. Il y a, d'une part, des forces extérieures ou leur moment qui créent des accélérations qui, selon le cas, sont linéaires ou sont des accélérations de rotation. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les moments, Eh bien, je vous rappelle quelque chose qui est très simple, c'est qu'en admettant que ce sujet qui court, il est soumis à son poids, il y a une réaction du sol ici, il y a, qui est selon une certaine direction, le moment des forces ici par rapport à G, eh bien, il est le produit de cette force par son bras de levier. Il va te faire tourner dans ce sens. En revanche, le moment de la force du poids ici est nul, puisqu'il passe par le centre de gravité. Donc, je vous demande aussi de regarder que cette quantité ici, c'est la dérivée du moment cinétique qui est ici. Donc, on a ici deux théorèmes qui commandent à tout le reste. Et en particulier, on remarque deux choses. La première, c'est qu'ils mettent en exergue les forces extérieures au corps. Ces forces extérieures, si on considère un solide ou un système de solide qui est considéré dans son ensemble, sont de nature variée. Évidemment, il y a la pesanteur, il y a la résistance à l'avancement qu'on va voir un peu plus loin. Il y a aussi d'autres forces qui sont des forces de contact, qui sont par exemple les réactions, les forces de réaction sur les surfaces d'appui corporel, comme ici les réactions du sol. Ce sont les réactions des appuis. Alors, ce que je suis en train de dire soulève une question, c'est qu'en est-il des forces musculaires ? Eh bien, les forces musculaires sont des forces internes au système, à l'homme lorsqu'il est considéré de façon globale. Elles appartiennent à la catégorie des forces de liaison intérieure. Ces forces agissent entre les différents points du système. Elles vont deux par deux, elles sont égales et de signes contraires, elles s'annulent deux à deux. Néanmoins, les forces musculaires, bien qu'elles soient des forces intérieures, vont évidemment avoir un rôle, mais elles ne sont pas prises en compte en tant que telles dans ces équations, telles que je les mets là. Alors, ceci étant posé, il y a des principes qui découlent des lois de la quantité de mouvement. Ils sont bien connus, c'est le principe de l'inertie et c'est le principe de l'action et de la réaction. Le principe de l'inertie, je vais l'exprimer comme un biologiste animal, Gray, l'avait fait il y a plusieurs années. Il s'exprime de la façon suivante. Si l'homme doit déplacer son corps par ses propres efforts, il doit faire naître une force et un moment de son environnement extérieur. Il en est de même s'il veut changer la vitesse ou la direction de son mouvement. Et c'est la mise en jeu des forces musculaires, on va le voir, qui le permet. Le principe de l'action de la réaction dit que, dans la même expression, l'homme ne peut exécuter des mouvements efficaces ni mouvoir son corps d'un endroit à un autre que dans la mesure où le milieu extérieur offre une réaction au mouvement des membres par rapport au corps. Et c'est là où on va retrouver les forces musculaires. Si bien que la force propulsive totale appliquée au corps du fait de la contraction des muscles est égale à la résultante des forces résistantes que, par exemple, le sol exerce sur les pieds. On a cet exemple ici, c'est que le corps, ici, va exercer une force, une action, ici, sur le sol, et le sol va réagir. Et c'est ainsi qu'on va faire sourdre depuis le sol cette réaction par le jeu activation ou désactivation des forces musculaires. Alors, il y a ici une curiosité qui est que je trouve très plaisante pour ma part, c'est que je lève le bras sur le côté, mon centre de gravité va se déplacer, avec lui, bien sûr, le poids. Ici, le centre de pression se déplace et la réaction du sol avec ses deux composantes se déplace. Tout ça est normal. Mais si, par exemple, je suis dans l'espace, je suis en apesanteur totale, alors à ce moment-là, quand je vais lever mon bras, eh bien, mon centre de gravité va rester à la même place par rapport à des axes de référence absolus. Donc, si vous voulez, ça fait partie des curiosités nombreuses que la biomécanique permet de comprendre. Le point suivant est toujours tiré de ces principes biomécaniques, et notamment de la loi de l'action et la réaction, c'est l'utilisation d'une plateforme de force. On a dit que si on veut déplacer son corps, il faut appliquer une action au sol, qu'il en résulte une réaction, et que c'est le résultat, cette réaction, de tout ce qui provient des forces musculaires, et du poids, bien sûr. Donc, on a ici la plateforme, on va montrer donc la plateforme de force, qui est l'illustration de ce principe de l'action et de la réaction. Ici, c'est une plateforme de force qui est connue d'un certain nombre. C'est celle qu'Yvon Brunière a mise au point dans notre laboratoire à Orsay. Et elle permet de mesurer les trois composantes de la force, le moment d'axe vertical et les coordonnées du centre des pressions. Nous allons appliquer cette plateforme de force à un travail sur le départ de la course qui a fait l'objet de la thèse de Françoise Natta dans notre laboratoire et qui avait été fait sur l'équipe de France féminine d'alors avec une certaine Patricia Girard, une certaine Marie-Josée Pérec et quelques autres. Donc ici, on montre la situation de départ. Le sujet est sur la plateforme. Il a son poids qui s'applique à la projection du centre de gravité. Et puis, il y a l'haltère qui est aussi sur la plateforme, qui a son poids et qui s'applique à son centre de gravité. Donc, on va enregistrer la réaction du sol, plus exactement par rapport au poids du sujet et l'haltère. Si on met l'haltère là, ou simplement du sujet, si on met l'haltère ici, ce qui sera le cas sur cette figure. Alors, on voit que la résultante des forces, qui en l'occurrence correspond à l'accélération du système total, va présenter une diminution, puis va augmenter, que lorsqu'on atteint le poids de la barre, eh bien, il va y avoir un déplacement, une dynamique. On a ici les silhouettes que la cinématique nous a données. Le sujet, c'est un arraché à deux bras. Le sujet va sauter. Ici, on a l'équivalent de son poids, puisqu'il n'est plus sur la plateforme. Et puis, il se réceptionne et il reprend une position, enfin, il prend une position debout en maintenant, s'il le peut évidemment, son haltère à bout de bras. Ici, ce sont les coordonnées du centre des pressions, c'est-à-dire on voit où les pressions vont vers quel point leur barycentre va se déplacer au cours du mouvement. Il s'agit d'une superposition de cinq tracés. Alors, si on regarde d'un peu plus près, on peut considérer que la superposition des tracés est très bonne, c'est-à-dire que les tracés sont parfaitement reproductibles lorsque le sujet a pris un tout petit peu l'habitude de son mouvement. En d'autres termes, le patron dynamique s'avère très reproductible pour un athlète donné. On va observer de la même façon une différence dans ce patron dynamique entre les experts et les novices. Et puis, si on regarde d'un peu plus près la biomécanique, on va trouver que l'intensité de la force appliquée sur la barre et donc la performance va augmenter en fonction du poids corporel, pour autant que ce soit des muscles, j'allais dire de vrais muscles, ce qui va favoriser la performance des sujets les plus lourds. Elle va également dépendre du positionnement des pieds sous la barre, qui, comme savent bien les haltérophiles, est une cause importante de la réussite de la performance. Parlant des contraintes mécaniques, je voudrais qu'on parle un peu maintenant des frottements. Nous avons ici une image qui correspond au posé du pied lorsque, dans la course ou dans la marche, le pied se déroule plus ou moins, et ça, c'est le décollement du pied. On a marqué ici l'action du sujet, ici la réaction du sol. Le rapport entre cette réaction ici, qui est appelée la force de frottement, et la réaction normale, c'est le coefficient de frottement. En d'autres termes, qui est représenté ici, en d'autres termes, si il se trouve que la réaction va se trouver en dehors du cône de frottement qui est représenté ici, en projection, eh bien, le sujet va glisser. Si c'est à l'intérieur, le sujet va pouvoir effectuer son mouvement sans problème. Alors, il y a un exemple qui est fort intéressant de l'effet du frottement dans la course, dans le patinage. On a ici le frottement, enfin la direction de la réaction du sol chez le sujet qui court, qui est supposé, enfin qui est dans le fait, à l'intérieur du cône de frottement. En revanche, ici, on a mis un axe de plus, comme vous le voyez, qui est l'axe latéral, parce que quand on fait les enregistrements de force, on constate que la réaction du sol va être selon cet axe. Et ceci est évidemment très intéressant parce que il est clair que l'on ne peut pas avancer si on s'appuie dans la direction du déplacement. On ne peut avancer que si on s'appuie sur le côté lorsqu'on patine, où la réaction est possible. Donc, le sujet va avoir un mouvement qui va être déterminé par la glissade qui est la sienne depuis le début et qui est modulée par la force qu'il va imposer à son patin chaque fois qu'il va appuyer sur le côté. Si bien qu'en définitive, ceci explique pourquoi les patineurs ont une course qui est toujours une course sinusoïdale et qui n'est pas une course rectiligne dans la direction du déplacement. L'exemple suivant peut-être revient à parler un tout petit peu du frottement. C'est l'exemple sur la résistance au frottement. En gros, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un régime selon lequel s'écoule l'eau ou l'air par rapport au corps, ou le corps par rapport à l'air ou l'eau, et que ce régime peut être soit laminaire, soit turbulent. Dans le cas où nous sommes, le régime est turbulent, ça veut dire qu'il va y avoir des remous, ici, derrière le corps. Et la formule qui donne cette résistance, cette force de résistance à l'avancement, est celle-ci. Je ne veux pas rentrer dans le détail, je veux simplement dire que S, ici, c'est ce qu'on appelle le mètre couple, c'est-à-dire c'est la surface qui est opposée par le corps à la direction du déplacement. Et ceci, c'est le coefficient de traînée qui va dépendre de nombreux facteurs comme le type d'écoulement de l'air ou la rugosité du corps, c'est-à-dire pour un sous-marin ou pour un poisson, le surfactant. Alors, on voit ici que ces remous, on les trouve évidemment pour un corps quelconque, mais on les trouve aussi pour l'homme, dès lors qu'il il va avoir ici un mètre couple du fait de l'inclinaison qu'il a par rapport à l'eau, par rapport à laquelle il se déplace. Un exemple suivant, c'est celui de du saut à ski, qui est un exemple assez caractéristique. Le saut à ski comprend une phase qui est assez simple. Au départ, il faut se laisser glisser. Après, il y a une phase de transition. Et après, il faut planer et, de façon à arriver le plus loin possible. Or, comme dans l'eau, le sujet est soumis à l'eau. L'eau a deux effets, la résistance à l'avancement et ce qu'on appelle la traînée et la portance. Et donc, il a aussi son poids. Et donc, il doit optimiser à la fois l'impulsion qu'il doit donner à la phase de transition pour sauter le plus haut possible, d'une part, et d'autre part, l'obligation qu'il a de réduire son mètre-couple le plus vite possible, c'est-à-dire de s'incliner le plus possible sur les skis. Et c'est pour ça qu'un bon indice simple, mais bon, de la performance, c'est l'angle que fait le tronc avec la verticale lors du saut. Et c'est lié, ça a été montré notamment par l'équipe de recherche de la Fédération française de ski à Chamonix, dirigée par M. Tavernier. Ça a été montré de façon très pertinente par ce groupe. Je voudrais aller maintenant un peu plus compliqué, mais je vais terminer sur deux exemples concernant la conservation de la quantité de mouvement. Qu'est-ce que c'est que la quantité de mouvement ? La quantité de mouvement, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, qui correspond à qu'on a trouvé dans l'équation du moment cinétique et de la... Je m'excuse, je ne le trouverai pas. Ah si. Du moment cinétique et de la résultante dynamique. Le voilà. La quantité de mouvement, c'est ici mg, c'est donc l'intégration, et ici c'est le sigma. Ici, ce qu'on appelle le sigma, c'est-à-dire cette expression-là. Alors, c'est un peu compliqué à voir, mais je vais le montrer tout de suite sur un exemple, qui est le départ de la course. En définitive, on a ici le départ de la course. Enfin, j'espère que vous le voyez. On a ici le sujet, ici, appuie sur les starting blocks. Et on a ici la force horizontale vers l'arrière, qui est arrière, du pied arrière, et ici la force horizontale du pied avant. On voit que c'est une courbe qui monte et qui descend. Eh bien, l'impulsion, c'est la surface, ici, pour ça, et la surface, ici. Et on a l'équivalent pour les rotations. Alors, si on regarde un peu plus près, on voit que ici, il y a une durée d'impulsion, que celle-ci croît et décroît, s'arrête évidemment quand le pied arrière quitte le sol, mais que la poussée continue grâce au pied avant jusqu'au moment où le pied avant, à son tour, va s'envoler pour être en phase d'oscillation en même temps que le pied arrière. Donc, on peut comme ça avoir une idée de ce qu'est l'impulsion, la poussée ou la quantité de mouvement. Ce sont à peu près des choses équivalentes. Alors, il y a un très joli résultat ici, qui est celui, un résultat ancien, est-ce qu'on peut essayer de le mettre au point ? C'est peut-être pas très au point. C'est toujours le plongeon ici qui est représenté avec le centre de gravité qu'on a vu tout à l'heure. Ici, c'est la quantité de mouvement. Ici, c'est le moment d'inertie. Et ici, c'est le moment d'inertie. Et ici, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme étant la vitesse du centre de gravité. Et donc, le sigma ici, le moment d'inertie est constant. Il est représenté ici. Le sujet change de forme, Et ce que l'on voit, c'est que en changeant de forme, il change son moment d'inertie. Et comme le produit des deux doit rester constant, il a sa vitesse qui augmente par le seul jeu de la mécanique et de la conservation du moment. Alors, ça existe évidemment dans beaucoup d'autres cas que je ne vais pas citer maintenant. Je voudrais quand même vous montrer que ça n'existe pas que selon un axe, ça peut exister selon un autre axe, ici c'est une vrille, et le sujet est lancé en l'air, et il va arriver à tourner sur lui-même. Alors d'abord, il a le tronc qui tourne, et du fait de l'action et de la réaction, au départ en tout cas, il y a une rotation ici de la tête et des épaules, et des membres supérieurs, et ici des membres inférieurs, qui va contrebalancer pour que le moment reste constant. Ici, il va tourner les jambes, et c'est l'ensemble de ceci qui va contrebalancer l'effet de cette rotation pour que le moment cinétique reste constant. Et là, il finit par tourner la tête, et c'est le tronc et les membres inférieurs qui ont un mouvement qui permet de compenser la rotation de la tête et des membres supérieurs, et donc d'effectuer sa vrille convenablement. Et ceci répond à un principe mécanique. Je terminerai avec la conservation de l'énergie mécanique, qui est également une des grandes lois qui est appliquée. Ici, c'est l'énergie mécanique totale. Il y a l'énergie potentielle, ici, et là, l'énergie cinétique, qui a une composante en translation, une composante en rotation du corps. Le sujet part, il prend avec une certaine énergie au départ, il est sur son matelas, il est sur un trampoline. La somme est constante. Plus il monte, et plus à partir d'un certain moment, l'énergie cinétique l'énergie potentielle va baisser dès qu'il va commencer à descendre. Et ici, l'énergie cinétique suit un chemin inverse de façon que les deux soient égales. L'énergie cinétique, c'est en définitive les mouvements effectués par les segments corporels, n'est-ce pas ? Il faut bien voir ça. Et il rebondit. Alors, c'est pas complètement conservatif. Il perd de l'énergie puisque la somme des deux ici va être moindre. Mais la somme des deux reste toujours égale et il va rebondir ici. Et vous voyez qu'il se paye une vrille, d'ailleurs, de surcroît, comme je l'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un transfert d'énergie de moment linéaire, en l'occurrence en moment de rotation. Bien, j'ai un peu dépassé le temps qui m'était imparti. Mais je n'ai fait que résumer très rapidement la contribution de la biomécanique à l'étude des gestes. Je pense que vous serez convaincus que la biomécanique permet de décrire avec précision les gestes sportifs les plus complexes. On a aussi vu la prégnance des lois de la mécanique dans l'organisation du mouvement. Connaître les déterminants de la performance aide l'entraîneur ou le pratiquant à prescrire des modifications de la gestuelle sur une base objective. On y a recours afin d'évaluer et d'optimiser la performance en modifiant la gestuelle d'un athlète par une musculation, un apprentissage approprié, et on peut en suivre les effets. Aussi, mieux comprendre l'organisation du mouvement permet de mettre en évidence certaines règles de fonctionnement de portée générale. En effet, les contraintes que les lois de la mécanique imposent à l'exécution du mouvement sont intégrées par le système nerveux, à la fois dans son organisation et ses modalités de fonctionnement. Elles sont donc déterminantes pour le contrôle du mouvement. Il y a là un vaste et passionnant domaine de recherche qui constitue le challenge proposé à la physiologie du mouvement. Je vous remercie de votre attention.
Monsieur, merci pour votre conférence. Je ne sais pas si vous avez pratiqué, étant jeune ou encore actuellement, du tennis, mais le sol du tennis ayant énormément varié depuis que nous étions jeunes et qu'il est maintenant complètement changé, c'est devenu un sol extrêmement dur. Les conséquences sur le squelette de cette variété de mouvements, finalement en zigzag, des réceptions, on ne peut plus glisser sur les sols actuels, font qu'on voit que même les grands, surtout les grands champions, à partir d'un âge, mettons d'une trentaine d'années, sont victimes d'une certaine pathologie rhumatismale que nous ne voyons pas quand nous étions jeunes, pratiquement, parce que les célèbres mousquetaires ont joué au tennis très tardivement. Vous avez parlé de Lever et Rosol. Ils ont été à cheval sur les deux surfaces, en quelque sorte. Et puis maintenant, vous voyez tous les grands champions qui s'arrêtent très vite de jouer à un certain âge, à un âge assez jeune, parce qu'ils ont une pathologie rhumatismale qui est probablement due, mais je demande votre avis, au changement de la consistance et de l'état du sol.
Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Il est tout à fait clair, je n'y ai même pas fait allusion, mais le temps était un peu court, que les risques liés à l'usure sont extrêmement importants dans les sols tels qu'ils sont. Alors, j'ai un exemple que je n'ai pas cité, mais qui est tout à fait classique, c'est celui des chaussures pour le jogging, ou la piste ou le jogging. Et il y a des études qui ont été faites sur l'adéquation, sur l'interface, en définitive, entre la chaussure et le sol, de façon à amortir l'effet des percussions au moment du sol. Et pour tous les coureurs, ce n'est pas vrai pour les tennismen d'ailleurs, mais enfin, pour tous les coureurs qui abordent le sol avec le talon, c'est-à-dire en gros tous jusqu'au moment où on va très vite, et à partir de ce moment-là, 70%, d'après ce que je peux savoir, eh bien, il y a un pic de force qui apparaît sur la composante verticale, la plateforme de force, et que l'on peut faire diminuer en ayant des sols et des chaussures adaptées. Mais il est vrai que ça ne favorise pas la performance. Et donc, il y a cette espèce d'opposition entre la nécessité de la performance et celle du confort, voire de la protection des vertèbres ou des os d'une façon générale.
Bonsoir. Je souhaiterais savoir si vous êtes capable de calculer le mouvement parfait pour un individu donné ou si ça relève de l'expérimentation, c'est-à-dire que vous lui prodiguez, je dirais, quelques améliorations et si on compare, en fait, pour arriver à déterminer quel est le mouvement idéal pour cet individu-là. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'on a chacun sa morphologie et qu'effectivement, il n'y a pas de mouvement parfait en tant que tel. Oui. Enfin, ou le mouvement le plus efficace.
Oui. C'est-à-dire que, comme vous le savez sûrement, les entraîneurs ou les pratiquants aiment bien prendre un modèle. C'est sûrement une façon de faire qui donne de bons résultats pour certains. Mais je me rappellerai un exemple qui est celui de la morphologie des coureurs de 100 mètres, qui étaient à une époque grands et maigres, et puis qui sont devenus petits et gros. Donc, je pense que la morphologie n'est pas un critère en lui-même. Ce qui est le critère, c'est ce qu'on pourrait appeler la capacité opératoire, c'est-à-dire, disons, la qualité des muscles, les leviers, la qualité aussi, les ressources psychologiques, cognitives, etc. Peut-on calculer la performance idéale, oui, on peut la calculer. Le problème, il est que le corps comporte beaucoup de segments. Donc, il faut faire un tri, comme je l'ai indiqué en passant, de façon à ne pas avoir trop d'équations. Bien. Alors ça pose un vrai problème. C'est est-ce qu'on fait un bon choix? Quel est le pourcentage d'erreurs que l'on va faire dans ce cas-là? Ensuite de ça, il faut faire des hypothèses. Qu'est-ce qui est optimisé dans le mouvement? Alors, on va dire la performance. D'accord. Mais la performance répond à des critères bien précis. Pour le lancer du javelot, c'est l'angle, c'est l'impulsion de départ, c'est déjà pas mal si ces deux choses sont comme il faut. Donc, on va avoir nécessité de critères d'optimisation. Et alors là, sur les mouvements, chez l'homme, on peut trouver de nombreux critères et personne n'est d'accord sur le critère, s'il y en a un, ce que je ne crois pas, ou l'ensemble des critères qu'il faut prendre en compte et le poids à donner à chacun. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de travail encore pour arriver à ce que vous voulez, mais si on a la cinématique d'un athlète, la dynamique aussi, on peut sûrement savoir qu'est-ce qu'il devrait faire pour améliorer sa performance.
La morphologie, ça dépend quand même beaucoup de l'entraînement. Vous développez certains muscles quand vous les entraînez. Donc, enfin, il n'y a qu'à regarder dans différents sports, une danseuse classique, elle ne va pas avoir la même morphologie que, je ne sais pas moi, par exemple, celle qui saute à la perche ou quelque chose comme ça, ou bien la coureuse. Donc, si vous voulez, la morphologie, c'est peut-être un donné d'origine génétique, mais ensuite, l'entraînement doit beaucoup le modifier, non? Et est-ce que, justement, les entraîneurs ne s'attachent pas à partir du donné de l'individu, à modifier au moyen de l'entraînement, la musculation, enfin, non seulement les gestes, si vous voulez, mais toute la musculation? C'était ce qu'on faisait dans le temps. Est-ce que maintenant, ça va plus loin et comment?
Je ne sais pas très bien ce qu'on appelle la morphologie. Oui. Mais je ne sais pas très bien ce que c'est. Parce que l'aspect du corps, c'est quoi? C'est la taille, c'est le poids, c'est la longueur des segments, c'est le périmètre. Dans ce périmètre musculaire, il y a quoi? Il y a de la gonflette, du dopage, pour revenir sur la conférence précédente. Il y a du muscle. S'il y a du muscle, il y a quel type de fibres? Il y a des fibres de type 1, de type 2. Donc, parler de morphologie, c'est vite fait, à mon avis. Ce qui est important, c'est la capacité opératoire, c'est comment sont les muscles, de quoi sont-ils faits, où est-ce qu'ils s'attachent, est-ce que les segments sont plus longs chez tel sportif que chez tel autre, et quelle est l'influence de la longueur des segments. C'est pas facile à dire, c'est pas facile du tout pendant longtemps pour les sauteurs à ski. On croyait qu'il fallait être costaud, parce que j'imagine qu'ils sautaient haut au moment de la prise d'appel. Maintenant, ils sont de plus en plus maigres, hein, parce que on favorise manifestement à la fois les ressources, les compétences psychologiques, d'une part, et cognitives, et d'autre part, le maître-couple, c'est-à-dire ce que l'on oppose à la pénétration dans l'air. Bon, alors, quelle est la bonne morphologie? Franchement, j'aimerais bien croire à la morphologie, mais j'ai travaillé sur les types humains quand j'ai commencé ma carrière et j'en ai été dégoûté par un de ses inventeurs. Et à ce moment-là, il considérait que ça dépendait du nombre de critères qu'on mettait, qu'on prenait en compte. Plus on en prend et plus il y a de types. Donc la morphologie, en gros, ça vaut quelque chose. On ne va pas faire jouer pilier de mêlée quelqu'un qui a un petit coup comme ça. Ça, c'est clair. Mais après, est-ce qu'il va être international?
Simon Bousset, je vous remercie.